du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite tu reviendras présenter ton offrande. Ces paroles de l'Évangile sont tirées du Sermon sur la montagne, dans lequel notre Seigneur explique qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais la porter à sa perfection. Il illustre son enseignement de plusieurs exemples, dont celui qui est exposé dans l'Évangile de ce dimanche, qui regarde l'accomplissement parfait du cinquième commandement de Dieu, « Tu ne tueras pas ». Il en montre toute l'étendue, en déclarant que la loi ne défend pas seulement l'acte extérieur de l'homicide, mais encore la volonté mauvaise de le commettre, et les passions funestes qui y conduisent, comme la colère, la haine, les paroles injurieuses. Il déclare donc que celui qui se met en colère et dit des injures à son prochain est coupable aussi bien que celui qui le tue. Mais notre Seigneur va encore plus loin. Il veut nous enseigner à fermer la porte à tout sentiment de haine, de rancune envers le prochain. C'est pourquoi il nous demande d'aller nous réconcilier avec notre frère avant de présenter notre offrande à l'autel. Considérons d'abord la nécessité de la réconciliation. Dans l'exemple qu'il choisit, notre Seigneur nous en fait un commandement. Dans le Sermon sur la montagne, il met en scène un auditeur qui va faire son offrande au temple à Jérusalem, un juif de l'époque. Mais notre Seigneur a fondé son Église depuis, et il a commandé à ses apôtres et à ses successeurs d'aller enseigner toutes les nations. C'est donc à nous que s'adressent ces paroles. Et il nous dit donc, à nous qui assistons au sacrifice de son corps et de son sang, et venons nous offrir avec lui à la messe, si après avoir entendu l'instruction de mes paroles à l'Épître et à l'Évangile, au moment de l'offertoire, vous vous souvenez à cet instant que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là votre offrande et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère. Vous aurez remarqué que notre Seigneur ne dit pas seulement « si vous avez quelque chose contre votre frère », mais si vous pensez que par suite de quelques paroles contre la charité ou de quelque action, même innocente, vous avez pu offenser votre frère, laissez là votre offrande, car elle ne saurait m'être agréable. Tant que vous n'aurez pas fait la paix avec votre frère, cette offrande ne pourra pas m'être agréable. Voyez, dit saint Jean Chrysostome, comment Dieu semble faire moins de cas de son honneur que de la charité. Que mon culte s'interrompe, dit-il, mais que la charité soit sauve. Retenons bien ceci, mes frères. Tant que nous restons désunis, nos sacrifices ne sont pas agréés, ni nos prières exaucées. Seule la charité donne du prix à ce que nous faisons. Par conséquent, le premier sacrifice à offrir à Dieu, c'est un cœur pur de toute inimitié, de toute rancune, de toute froideur envers le prochain. Supposons maintenant que notre frère n'a rien contre nous, mais que c'est lui qui nous a offensés. Nous serions en droit, dit saint Augustin, d'avoir quelque chose contre lui. Alors, il ne serait plus nécessaire d'aller au-devant de la réconciliation. Il n'y a pas à demander pardon à qui nous a fait injure. Il n'y a qu'à lui pardonner, comme nous désirons être pardonnés de Dieu. Il n'y a qu'à pardonner. Facile à dire, me direz-vous, mais pas facile à faire. Surtout quand le mal qu'on nous a fait est grand. Notre nature, alors, tout entière, se révolte à la pensée de pardonner. Prenons un exemple pour illustrer cela. celui du baron Christophe de Chantal et de son épouse, celle qui deviendra Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, la fondatrice de la Visitation Sainte-Marie. Jeanne-Françoise, fille du président du Parlement de Bourgogne, épousa à la veille de ses 21 ans un gentilhomme de 27 ans, le baron Christophe de Chantal, descendant du côté maternel de Saint-Bernard. Ils étaient tous deux catholiques ardents. De cette union naquirent, en 8 ans, 6 enfants, dont 4 seulement survécurent, 1 fils et 3 filles. Le baron de Chantal, qui devait s'absenter souvent pour les choses de la guerre ou de la cour, avait confié à son épouse la gestion du domaine. Celle-ci régla les choses de manière à établir de solides habitudes de piété, prière, messe quotidienne, enseignement du catéchisme, assistance aux pauvres. En 1601, alors que le couple jouissait d'un temps de bonheur au château familial, survint une horrible catastrophe. Le baron, qui n'aimait pas chasser, alla par complaisance envers un parent et ami intime, alla à la chasse. Le baron avait mis ce jour-là, ce n'était peut-être pas très prudent, un habit couleur biche. Son ami s'y méprit et, au cours de la chasse, le prenant à travers les broussailles pour du gibier, il tira et lui cassa la jambe. Le baron se rendit compte que cette blessure allait le conduire à la mort. Il s'adressa à son ami, « Mon cousin, mon ami, tu as fait ce coup par imprudence. Je te pardonne de tout mon cœur. » Il envoya ensuite ses gens chercher un prêtre et se confessa. Apercevant son ami désespéré, il lui dit, « Mon cousin et cher ami, ce coup m'est tiré du ciel avant qu'il partît de ta main. Je te prie, ne pêche point. Et prie Dieu pour moi. » Quel regard surnaturel, quelle grandeur d'âme. Porté au château sur un brancard improvisé, le baron languit encore 9 jours. Son épouse, mère depuis 15 jours de sa 3e fille, était folle de douleur. Le baron, calme et résigné, lui dit, « L'arrêt du ciel est juste. Il le faut aimer et mourir. » « Non, s'écria-t-elle, il faut vivre !»« Ah !» reprend le baron, « respectons l'ordre de la Providence. » Pendant ces 9 jours, Jeanne-Françoise assista sans cesse son époux. Elle l'admirait, mais elle n'arrivait pas à prononcer le « oui » de résignation à la volonté de Dieu. Elle priait Dieu ainsi, « Seigneur, prenez tout ce que j'ai au monde, mais laissez-moi ce cher époux que vous m'avez donné. » Monsieur de Chantal, après avoir reçu les derniers sacrements avec une grande piété, pria sa femme et commanda à son fils de ne jamais songer à venger sa mort. Il pardonna de nouveau à son cousin et il fit écrire ce pardon, avec l'ordre donné à sa famille de ne pas se venger, dans les registres de l'Église, afin de retenir leurs sentiments. Puis, il expira. Jeanne-Françoise avait 28 ans. Sa douleur était immense. Elle ne se sentait pas le courage de revoir le meurtrier de son mari. Elle n'arrivait pas à lui pardonner. Il faudra attendre 5 ans pour que la situation se débloque. Grâce à une réponse de Saint François de Sales, qui était entré à cette époque-là dans sa vie, à l'occasion d'une retraite, et il répondit à une de ses questions. Le saint lui conseilla de ne pas chercher à rencontrer celui qui avait tué son mari, mais que s'il se présentait, elle le reçoive avec un cœur doux, gracieux et compatissant. Qu'elle ne s'étonne pas des réactions involontaires de son cœur, mais tourne son âme vers le ciel pour chercher du secours. L'entrevue, extrêmement pénible, eut finalement lieu. Le mot de pardon qui vient sur ses lèvres lui coûta plus que toute l'œuvre de sa sanctification. C'est à ce prix que la victoire sur son propre cœur fut complète. Si bien qu'en 1608, 7 ans après la mort, elle accepta d'être marraine d'un enfant du responsable de l'accident mortel de son mari. Cet exemple, mes frères, nous montre les bienfaits du pardon. En pardonnant de tout son cœur à son cousin, le baron de Chantal a obtenu d'être pardonné de Dieu et de faire une sainte mort. Son exemple a donné à son épouse le désir de l'imiter, la force de ne pas consentir au ressentiment éprouvé et d'en éviter les conséquences funestes que sont la rancune, la haine, le désir de vengeance. Ce pardon généreux, total, réitéré, a obtenu à l'ami du baron de ne pas tomber dans le désespoir. Le pardon que donna ensuite Jeanne-Françoise un peu plus tard acheva de rétablir la charité qui doit régner entre des frères dans une famille. Les réactions différentes du baron et de son épouse nous montrent que la difficulté de pardonner varie selon les personnes. Et si c'est difficile, il faut prier, demander à Dieu la grâce de ne pas consentir à nos sentiments, de ne pas nous troubler des réactions de notre nature, mais offrir à Dieu cette peine et lui demander la force de prononcer la parole libératrice, quoi qu'il nous en coûte. Voyons maintenant les qualités de la réconciliation. Pour qu'elle plaise à Dieu, elle doit être prompte. Saint Paul dit qu'il ne faut pas attendre le lendemain. Le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Plus la réconciliation est rapide, plus elle est facile. Christophe de Chantal n'attend pas. Il est à terre et il pardonne aussitôt. La réconciliation doit être sincère, c'est-à-dire venir du fond du cœur. Il ne suffit pas de dire « je lui pardonne, cela suffit » ou alors « je ne lui en veux pas, mais je ne veux pas lui parler ni le voir ». Ce serait garder une rancune secrète. Voyez l'exemple de Jeanne-Françoise. Non seulement elle pardonne, mais en devenant marraine, elle pose un acte qui montrera qu'une véritable charité fraternelle règne désormais entre sa famille et celle de l'ami de son défunt mari. La réconciliation doit être constante et durable. Monsieur de Chantal ne s'est pas contenté du pardon au moment de l'accident. Il vient au secours de son ami désespéré quelques heures plus tard en l'encourageant à prier et à ne pas se laisser aller au désespoir. Enfin, 9 jours plus tard, il renouvelle son pardon et il le fait écrire dans les registres de l'Église pour que le temps soit témoin que ce pardon est durable et définitif. Notre réconciliation doit être proportionnée. Elle doit répondre à l'offense. Si nous avons offensé notre prochain en pensée, c'est facile, réconcilions-nous en pensée. Si nous l'avons offensé en parole, c'est un petit peu plus difficile, il faut que la réconciliation se fasse par des paroles. Et à notre époque, c'est facile, si le prochain habite un peu loin, il y a le téléphone. S'il y a eu un tort effectif, alors il faut nous réconcilier en procurant quelques bienfaits. Dans quelques instants va avoir lieu l'offertoire. La petite goutte d'eau qui est versée dans le calice nous représente. Nous allons nous unir au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors examinons-nous, pardonnons de tout notre cœur si un de nos frères nous a offensés. Et si nous nous souvenons que nous l'avons offensé, prenons devant Dieu la ferme résolution d'aller nous réconcilier aujourd'hui même. Demandons cette grâce à la Vierge Marie qui, au pied de la croix, a pardonné avec son Fils à tous ceux qui les ont fait tant souffrir et dont nous sommes du nombre par nos péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.